Europe 1.
. 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Quand Stéphane m'a dit « Aujourd'hui Mathieu, faisons une émission consacrée au Club des 27 », j'ai cru qu'il faisait référence au Club des 27 à Ibiza. Surnommé ainsi à cause des 27 MST qu'on y attrape normalement en moyenne en un été, et ouvert 4h du mat, alors que les clients ayant eu la main la plus lourde sur la tequila commencent à piquer du nez sur les banquettes en sky, Clémentine Portier-Kaltenbach surgit avec un saladier en s'exclamant
« Je pense que vous manquez un peu de cocaïne ».
Heureusement, ce n'est pas de ce club des 27-là que vous nous parlez, Stéphane, rassurez-moi.
Oui, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Effectivement, ce n'est pas du tout de ce club où visiblement vous avez vos habitudes dont nous allons parler, mais du club des 27. Ces personnages de l'histoire morts à 27 ans.
Et oui, souvent des rockers, mais pas que. La preuve avec nos premiers personnages du jour, Stéphane.
Oui, je vais d'abord vous raconter le destin court mais intense d'un roi de France. Charles VIII, le dernier des Valois, mort accidentellement à 27 ans, mais qui a fait beaucoup pour son pays juste avant. Et puis, lui aussi est mort à 27 ans. Il s'appelait Joseph Méric. On le connaît dans le monde entier sous le nom d'Elephant Man, dont la vie a inspiré le film. Un homme différent à qui je vais redonner vie, non sans émotion aujourd'hui. Et puis la malédiction continue, Mathieu, puisqu'il y a quelques années, une étoile montante du rock nous quittait.
Oui, elle chantait beaucoup mieux que Charles VIII. Je vous parlerai d'Amy Winehouse. La chanteuse disparue en 2011, qui a hélas passé beaucoup trop de temps au club des 27 d'Ibiza, celui-là, avant de rejoindre l'autre club des 27, où elle a retrouvé Jim Morrison, Kurt Cobain, Janis Joplin...
Eric Azaray.
Puis rassurez-vous, c'est moi qui brosserai son portrait, pas Stéphane, qui connaît un peu mieux en rock.
Eux, Mathieu, je le crains, n'intégreront jamais le club des 27.
Mais peut-être celui des 97, car oui, le temps passe et ils ne rajeunissent pas, mais c'est toujours bon de les retrouver. Hein,
mais oui, évidemment, évidemment. Elle, on ne s'en lasse jamais, nous entraîne dans l'intimité des... Et grande ce monde. 27, c'est le temps de sa chronique.
Oh là là, la
Clémentine
peau de vache. Oui. En plus, on me met de l'accordéon comme si j'avais l'âge d'être Yvette Horner. Ça manque singulièrement de galanterie. D'autant que je vais, moi aussi, évoquer des jeunes gens fauchés dans la fleur de l'âge. Vous vous souvenez l'autre jour, Mathieu, dans Bern to be alive, vous nous avez interrogé sur le rituel de passage des samouraïs. Avoir une relation sexuelle avec un homme, surtout pas une femme, bien entendu, parce que la femme, comme son nom l'indique, effémine le samouraï. Et dans la Grèce antique, on avait compris tout l'intérêt de créer un corps d'élite composé uniquement d'hommes, bien sûr, mais d'amants. D'amants qui se battraient comme des lions pour sauver la vie de leurs compagnons. C'était le bataillon sacré de Thèbes. Voilà. Voilà ce dont je vais vous parler, ces jeunes gens qui combattaient ensemble, amoureux, comme des lions.
Des risques, il va en prendre lui aussi, Stéphane. Aujourd'hui, des risques énormes, puisqu'il teste tous les matériaux dont il nous parle. Après le béton armé, il a testé pour nous l'amiante. C'est peut-être une dernière chronique de David Castello-Lopez. Bonjour David.
Les origines de l'amiante, de sa gloire jusqu'à sa déchéance. Parce que c'est vraiment une des plus grandes dégringolades de l'histoire des matériaux, l'amiante.
Une belle histoire en perspective, on va rire. Et avec nous également, Stéphane, votre chroniqueur préféré, Olivier Pouls, qui nous raconte chaque jour l'histoire d'une recette. Aujourd'hui,
qui nous fait maigrir.
Une espèce oui, puis aujourd'hui, vous allez être servi. Une espèce d'élixir de jeunesse, la tartiflette. Voyez-vous, on est en pleine saison. Là,
on est en haute saison de la tartiflette. Ouais, mais vous expliquez, c'est que la tartiflette, ça se combine bien avec le ski.
Bah oui.
Mais qu'on peut plus faire de ski, on peut plus maigrir. On peut juste bouffer la tartiflette.
Non, mais voilà, exactement. On peut faire des raquettes et du ski de fond.
Tenez-vous, comment est mort Jim Morrison.
Jim Morrison,
dans une tartiflette.
Étouffé dans une tartiflette. On en parlera tout à l'heure et on sera très précis dans cette émission historiquement. Enfin, si on lui avait dit que la deuxième phase de sa carrière serait marquée par une cruelle érosion de sa légitimité journalistique liée à ses résultats pitoyables dans un quiz, Stéphane Bern aurait probablement choisi de rejoindre le club des 27. Hélas, il s'approche dangereusement du club des 70 et il joue toujours à Bern to be Alive, notre célèbre quiz faussement historique mais vraiment vicieux. Ce sera comme d'habitude aux alentours de 5h-10. Mais tout d'abord, Stéphane, partons à la rencontre de notre premier rocker décédé à 27 ans. Je me demande si vous avez bien compris le concept de ce club des 27 puisque vous nous parlez de Charles VIII. On a fait plus punk.
Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Mourir à 27 ans, c'est très jeune, mais mourir en plus d'une façon très idiote, c'est pire. Et c'est malheureusement le sort réservé à un roi méconnu, le dernier des Valois direct, si j'ose dire. Stéphane Bern nous raconte Charles VIII.
Oh, ce pauvre Charles VIII, un roi apprécié par ses sujets que l'on surnommait l'affable ou le courtois, et bim, Il venait d'avoir 27 ans. Bim. Il était roi depuis 15 ans. À 27 ans, Charles VIII succombe. Nous sommes le 7 avril 1498. Son épouse, la née duchesse Anne de Bretagne, déprime au château d'Amboise. Elle vient d'accoucher d'une fille mort-née. Sur les 6 enfants qu'elle a mis au monde, aucun n'a dépassé les 3 ans. Cherchant à la distraire, Charles VIII lui propose d'assister à une partie de jeu de paume. Pour atteindre les fossés du château où se déroule le spectacle, le roi et son épouse empruntent une galerie souterraine. Sans doute un peu trop pressé, Charles VIII se heurte la tête sur le linteau d'une porte. Il chancelle, mais cela ne l'empêche pas d'apprécier le spectacle pendant un long moment. Quand tout à coup, alors qu'il s'entretient avec son voisin, il perd connaissance. Son état est jugé trop critique pour tenter de le transporter. Il est alors allongé sur une paillasse à même le sol. Le roi meurt 9 heures plus tard sans que l'on puisse déterminer tout de suite la raison du décès. Une fin tragique, stupide et surtout prématurée. Car dès sa naissance, Charles est voué à jouer un grand rôle pour le royaume de France. Charles voit le jour le 30 juin 1470 au château d'Amboise. C'est là, loin de la cour et de son père Louis XI, qu'il passe ses premières années. Pour autant, 500 personnes seraient chargées de veiller sur lui en permanence. Le dauphin a en effet une santé fragile. Charles ne manque de rien, soins médicaux, activités physiques. Il excelle rapidement comme cavalier et apprécie la fauconnerie et le fameux jeu de paume. Louis XI fait tout pour que son unique fils, encore en vie et donc successeur à la couronne de France, atteigne l'âge adulte. Le roi a besoin du dauphin pour agrandir son royaume. Il le promet en mariage à presque toute l'Europe. En 1475, le traité de Picquigny, qui met officiellement fin à la guerre de Cent Ans, est assorti d'une promesse de mariage entre Charles et Élisabeth d'York, fille du roi Édouard IV d'Angleterre. 2 ans plus tard, Louis XI a une nouvelle idée. Pour récupérer des états de Bourgogne, il suggère plutôt une alliance entre son fils et Marie de Bourgogne. Mais elle meurt accidentellement. Pour qu'à cela ne tienne, il propose de fiancer Charles à Marguerite d'Autriche. Elle est ni plus ni moins que la fille de la défunte et vient de fêter ses 3 ans. Comme le veut la tradition, la petite Marguerite quitte père et mère sur le champ pour la France. Bon, elle y restera 8 ans. En 1483, Louis XI décède des suites d'une grave maladie. Charles VIII n'a alors que 13 ans. Sa sœur aînée, Anne de Beaujeu, assure la régence avec son mari. Elle est surnommée la dame de fer dans des gants de velours. Elle doit faire face à la guerre folle. Il s'agit d'une coalition des grands princes qui veulent renverser le pouvoir. La régente parvient à mettre un terme à cette menace. Elle fait notamment jeter en prison le duc d'Orléans, cousin de Charles VIII et futur roi Louis XII. Anne de Beaujeu veut poursuivre l'expansion territoriale de son père et pour cela, elle prévoit de s'emparer du très prisé duché de Bretagne. Charles VIII a désormais 21 ans et entreprend sa première grande mission. Il assiège Rennes, où se trouve la duchesse Anne de Bretagne. La ville finit par se rendre. Malgré son engagement auprès de Marguerite de Bourgogne, la raison d'État l'emporte et Charles VIII demande Anne de Bretagne en mariage. C'est l'unique moyen pour s'emparer du duché et pacifier le royaume. Le 6 décembre 1491, Charles VIII épouse alors Anne de Bretagne au château de Langeais, en Touraine. Avant cela, la duchesse qui boite légèrement doit soumettre un examen physique peu fréquent. Elle est présentée entièrement nue à un collège de pseudo-experts. Parmi eux, Anne de Beaujeu et son mari, Pierre, ainsi que le duc d'Orléans, sorti de prison et gracié par Charles VIII. L'objectif est de déterminer de visu si la future reine ne présente pas des signes défavorables à une bonne fécondité. Anne de Bretagne semble avoir réussi le test sans problème notoire.
Super.
Pour sceller l'union de son frère Charles VIII et de la duchesse de Bretagne, Anne de Beaujeu fait ajouter une clause au contrat. En cas d'absence d'héritier mâle ou de mort du souverain, la reine ne pourra se remarier qu'avec le successeur du roi de France. Elle cède aussi les droits de son duché de Bretagne. Désormais, quoi qu'il arrive, la Bretagne appartient au royaume de France. Charles VIII est auréolé de prestige. Il hérite d'un royaume pacifié et réussit même à l'agrandir. Bienveillant envers son peuple, il n'assomme pas ses sujets avec des impôts exorbitants. À 21 ans, le jeune roi a foi dans son règne qu'il espère, vous vous en doutez, le plus long possible. Charles VIII veut imposer le royaume de France comme le plus puissant du monde chrétien. Et pour y parvenir, il lance en 1494 une expédition en Italie. Il projette de s'emparer du riche royaume de Naples qu'il estime appartenir à la France. Mais pour faire passer le coût astronomique de cette guerre en Italie, il affirme mener une croisade chrétienne contre l'Empire ottoman. Les Turcs menacent en effet le pape de l'autre côté de l'Adriatique. Le roi de France s'engage donc dans cette entreprise à la tête d'une armée de 28 000 hommes. Charles VIII a 24 ans. Il ne lui reste plus que 3 années de règne. On le sait déjà, mais lui ne le sait pas encore. Vous savez, Mathieu, le roi aurait pu trépasser en Italie. Charles VIII, qui a une santé fragile depuis son enfance, contracte en Italie la petite vérole, puis la rougeole. Il s'en amuse d'ailleurs dans l'une de ses lettres. « Pour habiller mon visage, il ne suffisait pas que juste la petite vérole, mais j'ai eu la rougeole de laquelle, Dieu merci, j'ai guéri. » Malgré les maladies du roi, cette première guerre d'Italie est pour le moment un franc succès. L'armée française progresse, sans rencontrer de réelles oppositions. En février 1495, Charles VIII entre triomphalement dans Naples. Les premières semaines, l'occupation est plutôt bien acceptée par les habitants. Le roi de France est populaire, il faut dire qu'il diminue même les impôts, mais progressivement, la situation se gâte. Une coalition anti-française voit le jour. Elle regroupe la République de Venise, le duché de Milan, le Saint-Empire romain germanique, les États pontificaux et la couronne d'Aragon. Le message est clair. On ne veut pas que la France s'empare d'une partie de l'Italie. Charles VIII doit faire profil bas s'il veut éviter une guerre sanglante. Le roi met à la tête du royaume de Naples Gilles de Montpensier, qui l'entoure de seulement 3000 hommes. Lui décide de regagner la France. Mais le trajet du retour s'annonce chaotique. Les soldats français repartent d'Italie avec un cadeau empoisonné. Beaucoup ont contracté ce qu'on appelle le mal de Naples, plus connu aujourd'hui sous son nom de syphilis, rapporté par Christophe Colomb dans ses bagages après avoir posé le pied et pas que le pied en Amérique. Décimé, l'armée française, affichant à peine 8000 hommes, tombe dans un guet-apens à Fornu, au sud de Parme. Charles VIII ne doit son salut qu'à sa bravoure et celle de son armée, mais aussi au temps perdu par les coalisés pour récupérer les richesses pillées par les Français durant les 18 mois passés en Italie. De retour en France, Charles VIII se consacre à diffuser dans son royaume la Renaissance qu'il a découverte et admirée lors de son expédition. Constatant qu'aucun de ses héritiers ne parvient à dépasser les 3 ans, il se réfugie alors dans la prière et la chasteté. Sa mort prématurée à 27 ans donc serait due à une hémorragie cérébrale. Comme elle l'avait promis le jour de son mariage avec Charles VIII, Anne de Bretagne se remarie avec son héritier, le duc d'Orléans, futur Louis XII. Alors que leur fille Claude deviendra reine de France en épousant François Ier. Et ça, Mathieu, on peut le dire, ça compte pas pour des prunes.
Reine Claude Prune, bravo Stéphane.
Europe 1, historiquement vôtre.
Le pire, c'est qu'il est content de lui. Quand il m'adresse ce petit regard en fin de récit, il est.
Il faut pas bouger son
fierté.
Plaisir.
Effectivement, ouais. Avec nous pour continuer à parler de ce rocker de Charles VIII, membre du triste club des 27, notre thématique aujourd'hui. Nous sommes avec l'historien Guillaume Picon, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Guillaume Picon, vous avez beaucoup écrit sur les rois de France, notamment publié un grand atlas des rois de France, et plus récemment, les rois de France en 1000 dates chez Glénat. C'est un roi plutôt méconnu, Charles VIII, évidemment. D'abord parce que mourir à 27 ans, évidemment, ça ne vous destine pas à rentrer dans les livres d'histoire. C'est pas seulement lié à sa courte existence, c'est aussi parce que, évidemment, il est entouré de gens plus illustres.
C'est-à-dire qu'il y a le règne de son grand-père, Charles VII, qui a mis fin à la guerre de Cent Ans. Il y a le règne très connu de son père, Louis XI, qui sort vainqueur du duel qu'il opposait au duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Donc ça, c'est en amont. Et puis, en aval, vous avez évidemment François Ier, prince de la Renaissance, qui a eu un règne bien plus long que Charles VIII. Et donc, entre ces grandes figures, très présente dans les manuels d'histoire, eh bien, celle de Charles VIII, comme vous venez de le rappeler, est très souvent éclipsée.
Il aurait pu être un grand roi, ce Charles VIII, ou pas ? D'après ce que disait Stéphane, on a l'impression que c'était un homme de qualité qui était bien vu de ses sujets. Est-ce que ça aurait été, s'il avait vécu plus vieux, ça aurait pu être un roi marquant, d'après vous ?
Il avait l'ambition d'accomplir de grandes choses, vous venez de le rappeler, notamment à travers ce que les contemporains appellent l'entreprise de Naples. C'est la première fois qu'un roi de France s'aventure à la tête d'une armée hors du royaume de France. Donc ça montre combien, à la fin du XVe siècle, au tournant du Moyen-Âge et de la Renaissance, le roi de France en Europe est un souverain puissant et peut-être même un des plus puissants.
Le problème, c'est que, au fond, avec Charles VIII, les choses commencent mal avec son éducation et ce père, Louis XI, qui était un tyran domestique aussi, on peut quand même le dire. D'ailleurs, on l'a appelé Charles VIII le roi maudit.
Alors, cette image de roi maudit est en partie due à la légende noire de Charles VIII, qui a été écrite par des historiens bien après. Mais il est vrai que Louis XI avait un tempérament très craintif. Cet héritier, il l'a désiré plus que tout. Et vous l'avez rappelé, c'est un enfant de santé fragile, chétif. Et donc, le roi Louis XI a peur pour la santé de son fils, donc du dauphin, et également pour sa sécurité. Parce qu'à un moment donné, il y a, étant donné que Louis XI lutte contre les grands seigneurs, il y a des rumeurs d'enlèvement et du roi et de son héritier, le dauphin. Donc Louis XI décide en quelque sorte d'installer le futur Charles VIII dans le château d'Amboise, un peu comme un prisonnier. C'est-à-dire qu'il est entouré d'une garde et personne ne peut approcher le dauphin sans l'accord du roi. Et le roi demande à être informé quotidiennement de la santé du roi. C'est-à-dire au moindre accès de fièvre, il demande à être informé parce que la santé de son héritier le préoccupe plus que tout.
Et c'est une enfance un peu malheureuse, au fond.
Une enfance un peu malheureuse, mais le roi Louis XI était également préoccupé par l'éducation de son fils. C'est-à-dire qu'il avait conscience que ce prince était destiné à lui succéder et Louis XI voulait que Charles VIII assure une continuité politique. Et Louis XI a même fait rédiger pour son fils, en quelque sorte, un manuel, le rosier des guerres, destiné à apprendre au futur roi le métier de roi, à la fois d'un point de vue moral et puis d'un point de vue également politique, diplomatique, etc.
Alors, on va continuer à parler de nos membres du club très fermé, des 27, et de Charles VIII en particulier, avec notre invité Guillaume Picon sur Europe 1. À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Connaissez-vous le club des 27? Ces stars, souvent du rock, qui sont mortes à 27 ans. Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Stéphane a choisi son personnage, il a trouvé notre star de l'histoire décédée à 27 ans.
Le plus rock'n'roll de tous.
Le plus rock de tous, il était complètement rock.
Il s'est cassé la tête contre un rock.
Le roi Charles VIII, dont on parle avec notre invité Guillaume Picon. Alors, le jeune Charles VIII grandit, on l'a dit, loin de la cour, mais son père compte sur lui, vous l'avez raconté. Il prend de ses nouvelles au quotidien parce qu'il a une santé fragile. Quelles sont ses ambitions pour lui à ce moment-là? Pourquoi tant d'attention à son héritier?
Pour Louis XI, son héritier a vocation à consolider l'héritage que Louis XI va laisser. Cet héritage, c'est le royaume de France dans ses nouvelles frontières, puisque...
Ils sont fragiles.
Elles sont fragiles. Et vainqueur de Charles le Téméraire, le duc de Bourgogne, Louis XI a pu intégrer au royaume de nouveaux territoires. Et Louis XI projette le mariage de son fils avec la petite-fille de Charles le Téméraire, Marguerite de Bourgogne. Et Marguerite de Bourgogne, en dot, doit apporter au futur Charles VIII la Franche-Comté, l'Artois, etc. Donc, doit encore permettre d'agrandir le royaume. Donc, dès son plus jeune âge, le futur Charles VIII est un enjeu politique et surtout un pion dans la diplomatie du roi. Donc, on voit que, dès ses premières années, Louis XI compte sur son fils pour finalement prolonger son héritage et intégrer pleinement les terres de Charles le Téméraire, le duc de Bourgogne. Mmh.
Finalement, on ira du côté de la Bretagne.
Oui, de l'autre côté.
On préférera, la pauvre Marguerite de Bourgogne restera les bras ballants et c'est la duchesse Anne qui apportera le duché de Bretagne.
Exactement, une fiancée chassera l'autre, en quelque sorte, comme on disait à l'époque que la mauvaise monnaie chassait la bonne. Alors je ne dis ça évidemment sans préjuger de la qualité d'une des fiancées ni de l'autre. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce mariage avec la duchesse Anne de Bretagne que vous avez raconté tout à l'heure, c'est que cet événement marque illustre la volonté du jeune Charles VIII de s'affranchir de la tutelle de sa sœur aînée, Anne de Beaujeu, puisque Anne de Beaujeu était opposée au mariage avec la duchesse Anne, et c'est le roi qui impose ses vues à sa sœur.
Oui, mais enfin, la duchesse Anne, on peut en dire un mot quand même. Anne de Beaujeu, c'est une femme à poigne, c'est elle qui décide de tout, elle est la régente de son frère Charles VIII. Elle a joué un rôle formidable dans l'histoire de France.
Elle a joué un rôle politique majeur, puisqu'elle assure la transition entre le règne de son père Louis XI et celui de son frère Charles VIII, puisque le roi étant trop jeune pour véritablement gouverner les grands féodaux, les grands seigneurs, en profite pour contester le pouvoir royal, et la duchesse Anne va défendre les prérogatives royales. Il y a une phrase qu'on prête à Louis XI à propos de sa fille Anne de Beaujeu, c'était que c'est la femme la moins folle du monde, car de sage, il n'en connaissait point. Donc on est bien là dans les représentations de l'époque, hein. Tous ces traits misogynes, mais ça montre également, en contrepoint, la haute estime dans laquelle le roi tenait sa fille, et en choisissant sa fille Anne de Beaujeu et le mari de celle-ci, Pierre de Beaujeu, comme tuteur, en quelque sorte, du jeune Charles VIII, puisque celui-ci est majeur officiellement au moment de la mort de son père, il savait très bien ce qu'il faisait.
Mm-hmm. Alors, on a dit la courte vie, évidemment, de Charles VIII n'a pas permis d'avoir l'aura de ses prédécesseurs ni de ses successeurs, mais il aura bel et bien été présent au château de Versailles. Il a tout de même marqué l'histoire des conquêtes des rois.
En effet, dans la fameuse galerie des batailles inaugurée par Louis-Philippe en 1837, avec 33 tableaux de format imposant, 7 ou 8 mètres de large pour 5 mètres de haut, qui retracent les victoires des rois de France de Clovis à Napoléon, eh bien, vous avez l'entrée de Charles VIII dans Naples, dont vous avez parlé tout à l'heure, et qui est, au niveau de la symbolique royale, un événement très important, puisque c'est la première fois qu'un roi de France porte la couronne fermée, et la couronne fermée dans la symbolique de cette époque-là, c'est la couronne impériale.
C'est quoi la couronne fermée?
C'est héraldiquement parlant, quand votre couronne est fermée, avant elles étaient, les rois de France étaient représentés avec une couronne ouverte.
Ah d'accord, non, physiquement.
Oui,
d'accord.
Oui, oui. Ah, okay.
Et donc la couronne fermée à cette époque-là, c'est la couronne de l'empereur. Donc ça veut dire que le roi de France, à partir de Charles VIII, eh bien, ça devient potentiellement un candidat éventuel à l'Empire. On est vraiment dans le projet politique de Charles VIII, qui est de conquérir le royaume de Naples et au-delà celui de Jérusalem.
Ah oui, c'était vraiment un conquérant dans l'âme.
Et donc l'idée de croisade est encore présente dans l'esprit des hommes de cette époque-là.
Alors c'est vrai qu'il est présent donc dans la galerie des batailles, mais il était présent aussi dans la série Borgia. Et alors là, je m'étonne, Guillaume, parce qu'on met en scène un roi, Charles VIII, au physique ingrat. Vous confirmez ou c'est pas très fidèle à la réalité?
Alors, c'est en partie fidèle, mais c'est surtout pas très aimable. C'est-à-dire que le roi, effectivement, était de taille moyenne, avait le nez long, mais quand on regarde certains des tableaux, il me semble pas aussi disgracieux que l'image que j'en ai découverte dans la fameuse série des Borgia. Je pense qu'il y a également des préjugés à l'œuvre qui sont de montrer vraiment, comme l'ont dit les Italiens à cette époque-là, quand les Français débarquent en Italie, ben, pour les Italiens, ce sont des barbares, avec ce fameux cri de ralliement « barbarie fuori », donc « dehors les barbares ». Donc on est là dans une autre légende, également noire, de Charles VIII.
On n'a pas payé assez les producteurs de la série.
il fallait mettre au pot, Stéphane.
On aurait mieux fait d'avoir une sorte de Rhys Meyers, vous savez, qui jouait...
évidemment, tout de suite, on va exagérer dans le sens inverse.
Oui, mais bon,
il était trop beau, Rhys Meyers.
En tout cas, merci beaucoup, Guillaume Picon. Je rappelle vos deux ouvrages sur les rois de France, Le Grand Atlas des rois de France et Les rois de France en mille dates, chez Glénat. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Est-ce que je me posais la question, excusez-moi cette petite digression, mais est-ce que vous faites partie de ces gens qui connaissent tous les rois de France de tête? Parce que ça paraît, vous êtes capable de
les réciter.
Vous les avez en mémoire tous. Si
alors,
vous...
tout dépend à partir de quand on commence. Ah, alors là, je ne les ai pas tous en tête parce que jusqu'au Carolingien, quand un roi meurt, potentiellement, le royaume est partagé entre ses différents héritiers. Ce qui fait que, par exemple, quand Clovis meurt, bah, le royaume est partagé entre ses quatre fils.
Et ainsi de suite.
Et à certains moments, étant donné que tous les rois n'ont pas toujours un grand nombre de fils, le royaume se trouve réuni. C'est le cas de Dagobert, qui est très connu pour avoir notamment
mis sa culotte à l'envers.
Et bien lui, il réunit ce qu'on appelle le Regnum Francorum, donc le royaume des Francs. Mais du point de vue... Donc ça fait potentiellement beaucoup de rois à connaître. Donc là, si vous m'interrogez, vous pourrez me prendre en défaut sans grande difficulté. En revanche, à partir des Capétiens, comme le disait Stéphane, la généalogie est un peu plus simple. Et je suis un peu plus solide sur mes jambes.
Un jour, vous reviendrai et on fera une battle entre vous et Stéphane.
Oh ben non, j'ai ce Guillaume.
On verra. Ça sera une sorte de Burn to be Alive, mais face à un invité, Stéphane. Et là, ça sera encore plus dur pour vous, je pense.
Vous êtes très pervers.
Oui, c'est vrai, c'est dans ma nature.
Non, c'est le meilleur, Guillaume Picon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle ne raconte pas l'histoire et surtout, elle tient ses promesses. Clémentine Portier-Kaltenbach, vous nous l'avez promis parce que Mathieu n'avait rien compris.
Je vous en prie.
Vous nous racontez
non, je vous en prie.
Cet après-midi, en 8 minutes, le bataillon sacré de Thèbes.
Oh, ça va être plus rapide que ça. Ah oui, on va former un bataillon, vous le disiez Mathieu, mais un bataillon composé d'amants. Hein. Parce que oui, c'est vous qui m'avez donné l'idée avec cette histoire de samouraï qui devait coucher avec un homme avant de devenir un samouraï. Voilà. Donc, dans la Grèce antique, on avait compris l'intérêt de faire battre des amants. Et Platon en parle. Si par enchantement, une armée pouvait n'être composée que d'amants et d'aimés, ces hommes ainsi unis pourraient presque vaincre le monde entier. Car s'il est quelqu'un de qui l'amant ne voudrait pas être vu quittant son rang ou jetant ses armes, c'est celui qui l'aime. Donc, on comptait sur le sentiment, à la fois sur l'amour et l'humiliation possible de celui qui déserterait pour former des combattants extraordinaires. La question, c'est de savoir si ce bataillon est mythique ou a réellement existé ou pas. Plutarque le cite aussi. Alors, ce bataillon était un corps d'élite de 300 hommes, créé en 376 avant Jésus-Christ par Épaminondas et son ami d'enfance Pélopidas. Et il fut mené, le dit bataillon, par le général Gorgidas. Et oui, c'est comme ça en Grèce. Hein. Quand les patronymes se terminent pas par os ou par kis, c'est en as, généralement. Maria Callas, Costa Gavras, Tsipras.
Oui, c'est bon, pas de
voilà. Épaminondas, oui. Alors, la cité prenait en charge l'équipement et l'entraînement de ce bataillon. Et puis, ils étaient installés autour de la ville de Thèbes. Ils étaient donc composés d'Éraste et d'Éromène. En fait, 150 couples d'amants. Dans la Grèce antique, l'Éraste, c'est un homme adulte qui a pour protéger un adolescent qu'on appelle son Éromène. Mais à l'origine, cette relation est purement éducative avec le Benjamin. Parfois, elle allait plus loin, mais c'était accepté parce que dans la Grèce antique, la relation homosexuelle est considérée quasiment comme normale entre deux hommes d'âge différent, celui qui en même temps éduque le jeune homme. Bon, voilà. Alors, durant les combats, on mettait ce bataillon d'amants en première ligne parce qu'ils étaient tellement courageux, vaillants, qu'ils renforçaient la résolution des autres combattants. Donc vraiment, ils galvanisaient l'ensemble de l'armée. Et en plus, le bataillon sacré de Thèbes avait une technique d'attaque unique pour l'époque qu'on appelait la phalange oblique. À l'époque, tout le monde... il y a une seule technique de combat. Et on attaque à droite, par la droite, et eux, ils attaquaient par la gauche.
Pas par derrière.
Pardon, Stéphane.
Stéphane,
je n'ai pas entendu, c'est dommage. J'ai mal entendu, je pense que c'est préférable.
Oui.
Alors, ne faites pas de mauvais esprit parce que tout ça est très magnifique, naturellement.
Bien sûr.
Le bataillon sacré va devenir très très célèbre dans toute la Grèce, la Crète, la Macédoine. Et après, Pélopidas va transformer ce bataillon sacré en une sorte de garde personnelle, de garde prétorienne, comme la garde prétorienne à Rome ou la garde impériale sous le Premier Empire. Et il finit, ce bataillon sacré, par être décimé par Philippe de Macédoine et Alexandre le Grand dans la bataille de Chéronée en 338 avant Jésus-Christ. Donc sur les 300 combattants, 254 sont tués et les autres sont blessés. Et comme Philippe II était bisexuel, comme son fils Alexandre le Grand...
Non, on n'a pas le droit de dire ça.
Il restait
à bon
pour
pas.
Là, on va avoir un courrier de l'ambassade de Grèce.
Mais il n'y a pas de honte ?
Si, mais c'est interdit. Enfin, on n'a pas le droit de le dire en Grèce.
Mais pourquoi ?
Non, on n'est pas en Grèce ici.
D'accord.
Ah oui, bon, c'est bon, d'accord. Bon, alors donc, comme Philippe II de Macédoine et son fils Alexandre étaient extrêmement tolérants et gay-friendly, et bien, réalisant qu'il avait détruit ce bataillon, écrit plus tard que Philippe de Macédoine éclata en sanglots et déclara « Si quelqu'un pense que ces hommes avaient commis quelque chose de honteux, qu'il meure misérable. » Et donc, tous ces soldats ont été enterrés plusieurs jours après la bataille dans une sépulture collective surmontée d'un monumental lion en pierre qu'on a découvert en 1818. Donc, vous voyez, il y a une tombe magnifique à Chéronée en hommage à cette bataille. Est-ce que le bataillon sacré pour autant existait ou pas, malgré le fait que plusieurs auteurs en parlent ? Ça reste un mystère. Ce qui est vrai, c'est que cette idée de faire combattre des hommes ou des amants, ou d'avoir un corps d'élite, elle a été reprise très souvent à Carthage. Là, c'était les garçons les plus riches de la ville. En Grèce, en 1821, c'était un corps d'élite formé de 500 étudiants grecs et étrangers. en Angleterre en 1895, alors là, c'est pas des combattants, mais c'est une société secrète homosexuelle qu'on appelait l'ordre de Chéronée ou de Chéronée ou de Chéronée en hommage et en souvenir à ce bataillon sacré de Thèbes. Et pendant la dernière guerre mondiale, il y a eu un bataillon sacré qui s'est de 200 hommes, hein, rattaché aux forces grecques libres, qui s'est placé sous les ordres du général Leclerc. Et ce bataillon est à l'origine des forces spéciales grecques actuelles. Voilà. Donc, que dire en conclusion ? Peut-être citer Blaise de Montluc, qui était.
C'est ce que j'aurais fait aussi.
Je pensais que ça allait vous venir aussi, qui était un homme de la Renaissance.
C'est pas une contre-pétrie.
Mais lui, il avait les deux casquettes. Il était à la fois combattant, il était maréchal de France et mémorialiste. Et voilà ce qu'il a écrit à la guerre comme en amour. Seul le corps à corps donne des résultats.
Ah, c'est pas mal. Faux. Écoutez, bravo Clémentine. Stéphane a essayé de salir par tous les moyens possibles votre belle chronique. Était très émouvante.
J'ai fait une très histoire sur Alexandre le Grand.
Oui.
Et c'est vrai qu'on n'a pas trop le droit de
Mais je ne comprends pas.
Enfin, il n'assume pas.
Mais il n'assume pas comment. C'est pas
parce
un
que
tort.
La Grèce antique et la Grèce d'aujourd'hui
sont très différentes.
Ouais, un peu, oui. Sur certaines tolérances.
D'accord.
Voilà, en tout cas, c'était super. Merci beaucoup, Clémentine.
Très bien. Merci, Clémentine.
Elle est où cette tombe qu'on aille
à Chéronée.
À Chéronée.
Oui, tout simplement.
Il y a des vols directs.
Des charters, oui, bien sûr. Alors, avant de lancer le quiz, je tiens à rappeler, Stéphane, qu'il est formellement interdit de se moquer de son adversaire pour tenter de la déstabiliser. Les moqueries, y compris vestimentaires, sont bannies. Ce que vous n'aviez visiblement pas compris hier, quand Clémentine est entrée dans le studio et que vous vous êtes exclamé.
On dirait pas femme de chambre.
Clémentine, il est à vous. Il est à vous. Je vous le laisse.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Alors voici venir une séquence, le quiz, qui est souvent le théâtre de cruels ascenseurs émotionnels pour Stéphane Bern, qui croit enfin tenir une bonne réponse, alors que non, parce que j'ai pas terminé la question, souvenez-vous. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.
Ça c'est Jacques Dutronc.
Mais hélas pour vous, pas la question Stéphane. Alors, ne vous faites pas de fausse joie, Stéphane. Jouons à Burn to be Alive et surtout, attendez bien que j'ai terminé une question avant de donner une réponse. Question numéro 1, philosophie. Ça, c'est un domaine où vous êtes très très fort, Stéphane. Le philosophe Gilles Deleuze s'appelait en fait Jean-Gilles Deleuze. Le philosophe Michel Foucault s'appelait en fait Paul-Michel Foucault. Une seule de ces deux phrases est vraie. Laquelle ?
Foucault, oui. Je crois.
Foucault, je crois.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné. Michel Foucault s'appelait Paul Michel Foucault. Il a abandonné Paul parce qu'il ne voulait pas avoir les mêmes initiales que Pierre Mendès France. Et surtout, il était victime d'insultes homophobes. Il se prénommait Paul Michel. On le surnommait Polichinelle.
Vous avez un secret d'histoire sur Michel Foucault ?
Non, pas assez populaire peut-être.
Oh,
sur
non,
Jean-Pierre
mais
Foucault peut-être un secret d'histoire. Mais pas sur
non, mais c'est vrai qu'il a été victime d'attaques homophobes. On l'oublie, mais...
On l'oublie. Question numéro 2 à Clémentine Portier-Kaltenbach à Europe 1. Et il y a le studio Lagardère, le studio Coluche, où nous sommes, et le studio Pierre Belmar, grand conteur de cette station. Il a marqué l'histoire des médias grâce à des idées de génie et sa moustache. Quand il enregistrait ses récits, ses célèbres récits pour Europe 1, il le faisait de chez lui et nu. Vrai ou faux ?
Bon, que ça lui soit arrivé peut-être, éventuellement, en sortant de sa baignoire, en étant en retard d'enregistrer. Non, mais non. En tout cas, quand il les enregistrait, c'est-à-dire que systématiquement, à chaque fois qu'il enregistrait une émission depuis chez lui, il était nu.
C'est la question que je vous pose.
Je réponds non.
Vous avez perdu.
Vous n'êtes pas joueuse, Clémentine. Et oui, Pierre Belmar avait un micro, un enregistreur. Et il nous racontait ses récits depuis son lit, dans sa chambre, tout nu. La seule chose qui lui faisait de la peine, c'est que souvent sa femme était à côté de lui, et à l'écoute de ses récits, elle s'endormait. Question numéro 3 pour vous, on salue la mémoire évidemment de Pierre Belmar. Question numéro 3 pour vous Stéphane, le tailleur que portait Jackie Kennedy le 22 novembre 1963 lors de l'assassinat de son mari n'était pas un tailleur Chanel, vrai ou faux ?
Très joli, rose et bleu me semble-t-il.
Mais c'était pas Chanel je crois.
Vous êtes très pointu en mode. Hein.
C'est du Oleg Cassini.
Vous avez perdu.
C'était du Chanel.
Alors là, on atteint, les amis, un degré de perversité dans cette émission que moi-même, je n'assume plus.
Elle était pas en tailleur.
En régie, ils ont décidé de vous envoyer le jingle perdu et de vous voler votre point, Stéphane.
Pourquoi ?
Je dis le mot voler, j'ose le dire.
Pourquoi ?
Parce que vous aviez d'abord donné la bonne réponse. N'était pas en tailleur Chanel. Oui. Donc à la question, vrai ou faux, vous avez répondu. Mais vous avez dit une autre marque. Vous avez
cité
une
autre marque. Non, c'est pas une marque. C'est pas une marque. C'était son conseiller, son styliste qui s'appelait Oleg Cassini.
Ah, mais comme en régie, non, aucune culture, évidemment. Hein, on peut le citer, Philippe Amardet, notre réalisateur. Il a vu que vous avez donné un autre nom. Et donc, il vous a volé votre point. Voilà ce qui s'est passé, Stéphane. Mais faites quelque chose, réagissez. Virez peut-être des gens.
La question, c'est quoi ? Est-ce qu'elle était en Chanel ? J'ai dit non.
Vous avez dit non, mais vous avez dit qu'elle était en Oleg Cassini.
Non, mais oui, parce que c'était son conseiller.
Et
voilà.
Mais en régie, ils n'ont pas compris.
Ils n'ont pas compris.
Zéro point.
Bah si, j'ai mon point, là. J'ai donné la bonne réponse.
C'était une copie conforme d'une enseigne nommée chez Ninon, une boutique de luxe new-yorkaise située sur Park Avenue, en quelque sorte, une copie autorisée de la maison Chanel.
Pour l'assassinat de son mari, elle n'allait quand même pas prendre l'original. Donc j'ai mon point.
Donc vous avez décidé que vous avez votre point à l'encontre de la régie. C'est une sédition.
Voilà.
Donc la régie dit que vous avez gagné.
Il rétablit mon point.
Question numéro 4.
Merci la régie.
Pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach, qui a dit « Dieu, que le silence est une âme qui fait souffrir, combien d'amours inavoués, combien de passions condamnées au nom de ceux qui ne pourront jamais en mourir ?» Paul Valéry ou François Valéry ?
Refaites le meuleux, là.
Dieu, que le silence est une âme qui fait souffrir, combien d'amours inavoués, combien de passions condamnées au nom de ceux qui ne pourront jamais en mourir ? Paul Valéry ou François Valéry ?
Bon, question écoutez, de culture. Je vais dire François Valéry.
François Valéry, le chanteur.
Le chanteur, oui.
Eh bien, Paul Valéry, si tu nous écoutes...
Vous avez gagné !
Mais oui, c'est une bonne réponse ! Dieu, que le
silence est... Oui, parce que, excusez-moi, c'est assez mauvais comme texte.
Hein.
Oui, là vous êtes injuste, Clémentine. C'est si ça avait été Paul Valéry, vous auriez dit c'était très beau.
Non,
oui.
Non, c'est pas vrai, Stéphane. Parce que vraiment, réécoutez la phrase. Redites-le nous.
Vous voulez vraiment ?
Oui, allez-y.
Vous entendez, c'est issu de Aimons-nous vivants, hein, son tube. Ouais. Dieu, que le silence est une âme qui fait souffrir.
Déjà, le silence est une âme qui fait souffrir, c'est très bête.
Combien d'amours inavoués, combien de passions condamnées au nom de ceux qui ne pourront jamais en mourir ?
Oui. Ben non.
Oui, ben non.
Condamne votre amour au nom de ceux qui eux-mêmes ne savent pas mourir
pardon,
d'amour.
Mais ça s'appelle de la poésie.
Non, mais oui. Bon,
et là, on est quand même en train de disserter sur du François Valéry. Voilà où nous en sommes dans cette émission. Ouais. Une petite citation de Paul Valéry, le vrai, si j'ose dire. Il a dit, j'adore, « La vie est trop courte et Proust est trop long ouais. ». Question numéro 5.
Non, j'ai gagné. C'est
ah
bon.
Non, c'est Stéphane qui a gagné, puisque vous avez effectivement soudoyé la régie pour obtenir le point sur la réponse.
Ils ont voulu me voler mon point.
Oui, on a voulu vous voler la victoire. Une fois de plus, Stéphane, vous avez su taper du point sur la table pour rappeler à tout le monde qui était le patron ici. Bravo Stéphane, vous remportez le quiz.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui prend le temps de vous raconter le passé. Et il s'en est passé des choses dans le passé. Bah oui, dans un passé disons proche, depuis une heure, nous avons rouvert le club des 27. Ouais. Ce club assez fermé qui réunit des personnalités qui ont eu la très mauvaise idée de nous quitter à 27 ans.
Oui, d'ailleurs Stéphane, le philosophe franco-colombiano-lusitanien Socratini ou Platini ou David Stelops a dit un jour en fixant l'horizon
« C'est mieux d'être en vie que d'être mort ».
Nos personnages du jour, Stéphane, n'avaient hélas pas étudié la pensée puissante de Stelops.
Non Mathieu, ils font donc partie du club des 27 qui n'est pas, comme vous le pensiez, à l'origine un club échangiste d'Ibiza.
Vous le connaissez, on s'est croisé.
Non, je ne suis jamais allé à Ibiza, vous savez. Mais bien le club des stars décédées à l'âge de 27 ans. C'est vrai qu'il semble y avoir une sorte de malédiction. Après Charles VIII, je vous raconte le destin aussi court que bouleversant de Joseph Merrick, alias Elephant Man. Quant à vous Mathieu, vous nous parlerez d'une étoile filante du rock.
Oui, quelle pensée incroyable les amis, que de se dire qu'en 2021, Nana Mouskouri est toujours parmi nous et que Amy Winehouse est morte il y a 10 ans. Elle ne voulait pas aller en rehab comme elle disait, quelqu'un aurait peut-être dû l'en convaincre. Oui. Je reviens sur le destin météorique d'une voix qui nous manque.
Sans oublier ceux qui ont dépassé cet âge fatidique de 27
limite,
ans.
Oui, effectivement.
Non, ce n'est pas un âge limite, la date fatidique. Vous voyez. David Castello-Lopez qui nous raconte les origines d'un phénomène, d'un objet, d'un produit. En l'occurrence, quelque chose qui a été à la mode autrefois, qui n'est plus du tout aujourd'hui.
Voilà, plus du tout parce que ça provoque le décès et c'est l'amiante.
C'est vrai qu'on n'en voit plus beaucoup.
Hein. Ouais, vachement
c'est glamour votre truc là.
Bah, oui.
Et puis alors,
je vais vous remonter le moral.
Ah bah oui, parce que
avec la
tartiflette
à la
viande. Besoin d'une tartiflette.
Bah évidemment, pas d'amiante du tout, une bonne tartiflette avec quoi des pommes de terre et des...
ça relève le goût, hein, vous savez.
Oui, c'est ça, que des choses qui font mincir.
Ah oui, c'est tellement bon en même temps.
Oui,
c'est la saison, il fait un peu froid, on va pas manger ça au mois d'août.
Oui, puis on n'a pas trop mangé pendant les fêtes,
non.
Là on est bien, notre IMC est impeccable.
Comme on peut pas aller faire du ski pour éliminer, c'est directement, voilà.
Directement dans les poignées d'amour. Stéphane, je sens qu'à la fin de cette émission, vous allez faire tout un pataquès.
Oui, d'où vient cette expression faire tout un pataquès?
J'en ai aucune idée, mais j'espère que vous avez bossé et que vous nous le direz.
Vous
à la
connaissez
fin de cette
le pataquès?
Je connais le pataquès ou l'expression?
Oui, d'où ça vient?
Ah non, j'en ai aucune idée.
Ah bah écoutez, je vous le dirai avec plaisir alors.
Avec plaisir et gratuitement. D'ailleurs, il ne faudra pas payer un supplément.
Non, absolument pas. Ça fait partie
du contrat.
Forfait.
Magnifique.
J'éclairerai votre lanterne.
J'ai hâte. Mais tout de suite, Stéphane, respirons un bon coup avant de nous confronter à une vision d'horreur, le visage de notre deuxième personnage du jour décédé à 27 ans. Joseph Méric, alias Elephant Man.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Il y a 40 ans, sortait sur les écrans le film Elephant Man de David Lynch avec Anthony Hopkins, un film basé sur une histoire vraie et triste, celle de Joseph Méric, une bête de foire au physique difforme qui n'a vécu que 27 ans, mais quelle vie. C'est ce que nous raconte maintenant Stéphane Bern.
Des films, des pièces de théâtre, des livres, Joseph Méric a inspiré de nombreux artistes qui ont endossé le costume d'Elephant Man. Pourtant, en dehors de la fiction, personne n'aurait aimé vivre dans le corps repoussant de cet Anglais du 19e siècle. Joseph Méric naît le 5 août 1862 à Leicester, à 160 km au nord de Londres. Jusqu'à ses 2 ans environ, il ne suscite pas plus de curiosité qu'un autre bébé. Mais vers 21 mois, une première excroissance apparaît et lui déforme la bouche. Les années qui suivent, son corps se transforme sans qu'on puisse faire quoi que ce soit pour stopper ces horribles mutations. Voici comment le décrit le médecin Frederick Treves, qui le découvre pour la première fois quelques années plus tard. Il avait une tête énorme et déformée. De l'arrière de la tête pendait un sac de peau spongieuse et fongique dont la surface était comparable à celle du chou-fleur brun. Il dépassait de la bouche comme un moignon rose. Le nez n'était qu'un morceau de chair, une nageoire ou une pagaie plutôt qu'une main. Le pouce avait l'apparence d'un radis, tandis que les doigts pouvaient être des racines tubéreuses épaisses. Vous l'aurez compris, Joseph Méric souffre d'une maladie très méconnue et peu étudiée et qui n'a de cesse d'effrayer tous ceux qui l'approchent. Il parvient tant bien que mal à aller à l'école jusqu'à ses 11 ans, année où sa mère décède brutalement. Son père épouse alors une autre femme qui accepte beaucoup moins la présence de cet enfant à l'allure repoussante et dont elle a honte. Joseph Méric enchaîne différents métiers. Il fabrique des cigares dans un atelier, mais ses déformations à la main droite le freinent dans ce travail minutieux. Il fait du porte-à-porte, mais son physique, entre l'homme et l'animal, effraie les potentiels acheteurs et lui vaut d'être moqué, molesté, maltraité par les habitants. Renvoyé de chez lui, il erre dans les rues avant de trouver refuge à l'hospice pour pauvres de Leicester. Approchez, messieurs, dames, approchez. Alors qu'il est au début de sa vingtaine, Joseph Méric aurait proposé sa candidature au directeur du Gaiety Palace of Varieties. Il est alors exhibé dans différents villages à raison de 12 représentations quotidiennes. Il vit alors à l'écart du monde parmi d'autres monstres comme lui et avec les forains. Les enfants, comme les adultes, ne voient en lui qu'un monstre sans âme humaine. Mais sa réputation d'Elephant Man explose véritablement quand un personnage, Tom Norman, l'installe dans sa boutique de Whitechapel Road à Londres pour l'exhiber aux curieux de passage, moyennant là encore une participation financière. Située face au Royal London Hospital, cette boutique insalubre attire notamment les étudiants en médecine intrigués par cet objet d'étude extraordinaire. En 1884, pour un shilling, le docteur Frederick Treves obtient le privilège d'une visite privée et découvre pour la première fois cette bête de foire. Telles sont ses impressions, sans filtre. Le showman, parlant comme un chien, a crié durement « Debout !» La chose se leva lentement et laissa tomber la couverture qui couvrait sa tête et son dos. Là se tenait révélé le spécimen le plus dégoûtant de l'humanité que j'ai jamais vu. Il se dégagea une puanteur très nauséabonde qu'il était difficile de tolérer. Le médecin, passé les premières secondes de dégoût, demande à pouvoir analyser cette créature unique au monde, tout du moins en Angleterre. Le propriétaire accepte. Frederick Treves procède donc à un examen approfondi, mais qui ne lui permet pas de découvrir la maladie dont souffre ce jeune homme. Le lendemain, En repassant devant la boutique, le docteur découvre que les locataires ont quitté les lieux. Dans un premier temps, Joseph Méric est ballotté de village en village. Son numéro rapporte de l'argent à son mentor. Il gagne sa vie aussi tant bien que mal. Mais en pleine période victorienne, ses spectacles sont jugés indécents, vulgaires et finissent par être interdits. C'est donc sur le continent que le pauvre Joseph est exploité, autorisé à briser son triste quotidien uniquement pour s'exhiber face à un public cruel. Mais ici aussi, ses représentations plaisent de moins en moins aux différents gouvernements. Au bout de 2 ans d'itinérance, arrivé en Belgique, le producteur de Joseph l'abandonne à Bruxelles, juste après l'avoir spolié de ses dernières économies. À son arrivée à la gare de Londres, Joseph, malade, est très affaibli et rapidement pris à partie par l'immense foule présente. Insulté, frappé, il est sauvé in extremis par la police qui l'extrait et le met à l'abri dans la salle d'attente des voyageurs de 3e classe. Par chance, pendant son périple de 2 ans à travers l'Europe, Joseph a soigneusement conservé la carte que lui a confiée le docteur Treves. Il est la seule personne capable de venir en aide à ce vagabond totalement recroquevillé sur lui-même. Sans réfléchir une seule seconde, le médecin le prend sous son aile et le ramène à l'hôpital. Le docteur accepte de le garder, mais à une condition: trouver les fonds nécessaires pour subventionner son séjour dans l'établissement. Il écrit un article dans le Times et la mobilisation est à peine croyable. De nombreux citoyens anglais sont touchés par l'histoire de Joseph Méric et envoient de l'argent. La reine Victoria elle-même aurait participé à la collecte. On lui aménage son propre appartement au rez-de-chaussée du bâtiment. Pour la première fois, il dispose de sa salle de bain, de sa chambre. Pendant 4 ans, des infirmières, des bénévoles se relaient pour s'occuper de lui. Le médecin, Frédéric Treves, passe chaque dimanche discuter pendant 2 heures avec lui. Car Joseph Méric n'est pas cette créature immonde, dépourvue d'intelligence que l'on pensait. Il adore lire la Bible, mais aussi les journaux. La princesse de Galles, Alexandra, lui rend visite, lui serre la main, lui envoie des cartes de bonne année. Il reçoit de nombreux cadeaux, assiste à une représentation de théâtre dissimulée dans une caisse en bois. Eh oui, faut pas exagérer. Il savoure enfin une vie plus douce et réalise ses rêves d'enfant. Pourtant, 6 mois seulement après son retour d'un séjour à la campagne, Joseph est retrouvé mort dans son lit. Pour la première fois, il avait tenté de dormir allongé et non assis, comme l'explique son médecin devenu son ami. « Il m'a souvent dit qu'il souhaitait pouvoir s'allonger pour dormir comme les autres. Je pense que la nuit dernière, il a dû, avec une certaine détermination, en faire l'expérience. » L'oreiller était doux et la tête, lorsqu'elle fut posée dessus, dut tomber en arrière et provoquer une luxation du cou. Ainsi, sa mort était due au désir qui avait dominé sa vie, le désir pathétique mais désespéré d'être comme les autres. Il s'appelait Joseph Méric, il avait 27 ans.
Europe 1, historiquement vôtre.
Alors on va continuer de parler de l'histoire fascinante et bouleversante de Joseph Méric avec notre invité Denis Van de Pé. Bonjour.
Bonjour.
On se remet de nos émotions parce que c'était un récit effectivement qui secoue et on en parle avec vous dans un petit instant.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre et notre club des 27 avec ses personnalités mortes à 27 ans comme des stars du rock continue. On parle du triste destin de Joseph Méric qui inspira il y a 40 ans le personnage d'Elephant Man au cinéma. On en parle avec notre invité, l'auteur Denis Van de Pé.
Oui, Denis Van de Pé, vous êtes le scénariste de Joseph Carré Méric, L'homme éléphant, paru aux éditions Sandaoué, et une biographie d'Elephant Man en bande dessinée. Vous êtes aussi l'auteur du roman Désincarné, paru en 2019, consacré lui aussi à Joseph Méric. C'est une histoire sombre, la vie d'Elephant Man, mais pourquoi vous avez souhaité vous y plonger toutes ces dernières années?
Alors, je me suis intéressé au cas de Joseph Méric, j'ai commencé à m'y intéresser il y a déjà une quinzaine d'années. J'avais vu, comme beaucoup de gens, le film de David Lynch. Cette histoire m'avait marqué. En la redécouvrant, je me suis rendu compte qu'il y a tout un pan de sa vie qui n'était pas très connu. C'était celui de son enfance. C'est sous ce biais-là que j'ai choisi d'aborder donc la bande dessinée. Et en partie également, plus tard, il y a quelques années, le roman Désincarné. Ce qui me fascine, moi, dans l'histoire de Joseph Méric, et à mon avis, ce qui fascine tout le monde, pratiquement, moi, je crois que c'est l'ambivalence des sentiments qu'il fait naître chez autrui. De prime abord, quand on voit Joseph Méric, quand on voit une photo de Méric, crois qu'il ne faut pas se cacher la vérité. Le sentiment que ça suscite d'abord, c'est un sentiment de frayeur, sinon probablement plus généralement de dégoût. Mais très vite, on apprend à connaître un personnage, une personne plutôt, qui est une personne douée d'une grande sensibilité, d'intelligence, en d'autres termes, une belle personne, une belle âme, ce qui vient contraster avec ce physique qu'il, quelque part, qu'il ne mérite absolument pas. Je crois que c'est le sentiment très fort d'empathie et de pitié que cela suscite qui fascine tant les gens et qui, moi, m'a fasciné.
Vous citiez tout à l'heure le film, évidemment, Elephant Man de David Lynch, un film tragique, violent. Est-ce que vous pensez que le trait a été grossi parfois ? Est-ce que la vie de Joseph Merrick n'a été qu'une longue vallée de larmes ou est-ce qu'il y a eu des moments un peu quand même d'espoir ou de gaieté ?
Alors, je pense que le film, enfin, rendons-lui hommage, le film de David Lynch est est un très grand film, c'est un chef-d'œuvre cinématographique. Je pense que le trait a parfois été un peu grossi, notamment dans la relation entre Merrick et son montreur de foire, son impresario, pour des raisons probablement de tension dramatique. Mais pour moi, c'est pas dommageable non plus, loin s'en faut, parce que ça rend vraiment compte de la dureté dont la vie de Joseph a souffert.
Vous parlez justement de ces fameux freak shows, ces foires aux monstres dans vos ouvrages. Et aujourd'hui, évidemment, ces spectacles sont relégués au chapitre sombre de notre histoire et appartiennent au passé. Mais pour Joseph Merrick, c'était à la fois un cauchemar et en même temps, c'était une bouée de secours. C'est ça qui est assez ambivalent, en fait.
Je crois que c'était plus une bouée de sauvetage qu'un cauchemar, en fait, parce que ça leur offrait une chose qui était finalement inespérée pour eux en ces temps extrêmement durs, impitoyables. C'est la possibilité, en fait, d'avoir un métier et un moyen de subvenir à leurs besoins. Je crois que ça leur offrait aussi un cadre finalement assez stable et assez réconfortant, même si c'était... on va dire sous la forme de spectacles itinérants, mais il y avait là quand même une stabilité pour eux. Et en plus, ça leur permettait d'intégrer une fratrie de monstres, certes, mais une fratrie. Et je pense qu'ils connaissaient leurs tourments respectifs. Et je crois que ça venait aussi désamorcer un peu la tension qu'ils devaient éprouver à être en contact avec les gens normaux. Donc pour tous ces éléments, je crois en fait que ce n'était pas du tout un cauchemar, c'était plutôt une aubaine.
Votre roman Désincarné raconte les 24 jours que Merrick a passé seul à Bruxelles, d'où vous nous parlez d'ailleurs en ce moment. Et ce passage-là est absolument décisif dans sa vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Effectivement, ce passage, ce que j'appelle son épisode belge, a été déterminant, a été un peu le point d'infléchissement dans son destin. Parce que il faut s'imaginer être un jeune Anglais abandonné dans un pays qu'on ne connaît absolument pas, dont on ne pratique aucune des langues qui y sont pratiquées. On baragouine soi-même à peine sa langue maternelle. Et Merrick, une fois abandonné à Bruxelles, se rend très vite compte qu'il se trouve dans une situation d'extrême urgence et que s'il ne parvient pas à rallier rapidement l'Angleterre, c'est la mort assurée pour lui. Alors, il détient, en plus, comme ça a été dit, la carte de visite du docteur Treves. Et c'est la conjonction de ces deux éléments, cet abandon, qui va en fait le mettre dans un état physique pitoyable. Il est au bord d'une fatigue absolue lorsqu'il arrive à Londres. Et c'est le fait d'arriver à Londres et de produire cette carte aux policiers qui font régner l'ordre, essayent de faire régner l'ordre dans la salle d'attente des troisièmes classes où se trouve Merrick. C'est en tendant cette carte, c'est par le truchement de cette carte, que Treves, que les policiers vont aller chercher Treves à l'hôpital de Londres et le ramener. Et pour moi, s'il n'avait pas été abandonné, je ne suis pas certain qu'il serait revenu à Londres. Sans cette carte, je ne suis pas certain qu'il aurait pu revoir le docteur Treves. Donc je crois que tout ça, ces liens de cause à effet, ont fait que Merrick, finalement, quelque part, a connu une autre vie.
Un dernier mot peut-être, Denis Vampé, sur le genre de vie qu'aurait pu mener au moment où il est mort. Sa vie se transforme en conte de fées à ce moment-là. Il aurait pu avoir une vie plus belle après s'il n'était pas décédé.
Personnellement, je pense que sa vie n'aurait pas été totalement différente parce qu'il avait finalement, elle avait pris un tour tout à fait inespéré pour lui à partir du moment où le docteur Treves l'a pris en charge. Il a pu rencontrer, comme vous l'avez dit, des têtes couronnées. Il a pu voyager, mais de manière paisible, voir la campagne, ce qu'il n'avait jamais fait avant. Donc je pense que s'il n'était pas mort si jeune, il aurait pu tout simplement terminer paisiblement sa vie, comme je l'ai dit, d'une façon qui, a priori, pour lui, était totalement inespérée.
Écoutez, merci beaucoup, Denis Van P. Je rappelle de votre BD Joseph Karimérik, la biographie d'Elephant Man en bande dessinée, parue aux éditions Sandaoué, et votre roman Désincarné, paru en 2019 et disponible sur un célèbre site de vente en ligne.
Oui, il commence par A et finit par Zone.
Oui, j'ai beaucoup aimé votre phrase. S'il n'était pas mort, il aurait vécu.
Mais c'est le prix Pulitzer me tend les bras avec cette question, je le sens.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque un club tristement célèbre, le club des 27, auquel appartiennent ces stars de l'histoire décédées à 27 ans. Après Charles VIII et Joseph Merrick, dit Elephant Man, vous nous brossez, Mathieu, aujourd'hui le portrait à 99% vrai de la regrettée Amy Winehouse.
Pour qui s'intéresse un peu comme moi à l'onomastique, qui est, comme vous le savez tous,
l'étude des noms propres.
L'étude des noms propres, il y a un qui est cultivé autour de cette table, effectivement. Le destin d'Amy Winehouse, littéralement, vous le disiez hors antenne Stéphane avec beaucoup de chic, Amy maison à vin, est un triste cas d'école d'une personnalité sur qui son patronyme a eu trop d'influence. Notez que l'inverse arrive aussi parfois, CF Jean-Jacques Debout. Plus qu'un portrait, Stéphane, c'est à une véritable plongée vertigineuse dans les méandres les plus toxiques du showbiz que je vous invite cet après-midi. Alors, on le sait, l'univers du showbiz, en tout cas avant la pandémie de Covid, la fermeture des cinémas, des théâtres, la fin des concerts, bref, avant de devenir à peu près aussi excitant que l'univers de la banque assurance, l'univers du showbiz était un monde sulfureux où les tentations étaient partout et où à chaque instant de chaque soirée, on pouvait tomber sur un dealer qui nous disait
« Ça t'intéresse d'acheter du vin, Mathieu Noël ?»
Moi, j'étais naïf, j'étais jeune, quasiment un enfant, ça m'intéressait forcément. Notre héroïne du jour, et c'est hélas le cas de le dire, a rencontré un dealer encore plus pervers qu'Olivier Pouls, d'autant que c'était son propre mec. Amy Winehouse a rejoint le Club des 27 en juillet 2011. On rappelle ce qu'est le Club des 27, même si on l'a déjà un peu dit dans cette émission. La preuve que le Club des 27, c'est la preuve que de Basquiat à Brian Jones, le fondateur des Rolling Stones, en passant par Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison et Kurt Cobain, les meilleurs partent à 27 ans, l'exception confirmant la règle étant Demis Roussos, qui lui a pris du rab. Amy Winehouse, c'est une voix unique du jazz, puissante, souvent comparée à Ella Fitzgerald, Macy Gray ou Sarah Vaughan. Ici, vous entendez « Love is a losing game », l'amour est un jeu où l'on perd à tous les coups, inspiré de l'amour non réciproque qu'un jeune franco-portugais, lui-même devenu cocaïnomane par la suite, vouait à une camarade de classe nommée Constance, qui préférait les mecs rebelles au faillot bilingue du premier rang qui n'aimait pas les tags. Amy Winehouse, c'est une étoile filante bourrée qui a traversé la galaxie aseptisée de la pop des années 2000 avant d'exploser en plein vol. Elle voit le jour le 14 septembre 1983 à Enfield Town, dans le nord de Londres. Sa mère, pharmacienne, s'appelle Janis, comme Janis Joplin, je l'aime bien. Son père, chauffeur de taxi, s'appelle Mitch, comme le méchant dans une sitcom américaine. Je l'aime moins. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pourtant ce Mitch qui lui fait découvrir le jazz à travers Frank Sinatra. Amy raconte que son papounet lui chante Fly Me to the Moon à chaque fois qu'elle est convoquée par la directrice de l'école en vue de son renvoi. Comme vous l'imaginez, Amy a très souvent entendu Fly Me to the Moon. Le circuit scolaire conventionnel. Là, Stéphane a tenté de claquer des doigts. Évidemment, pas sur le bon temps, mais c'est quand même une belle tentative, Stéphane.
Ne vous moquez pas. J'adhère à votre récit. Je vibre.
Oui, vous vibrez, vous claquez des doigts, c'est très beau.
En plus.
Alors, Amy est acceptée dans une école de théâtre, mais elle s'en fait expulser à l'âge de 14 ans pour manque d'assiduité et piercing à la narine. Alors, elle s'enferme dans sa chambre et commence à écrire des chansons. Un camarade de classe, James Tyler, l'encourage à envoyer une de ses démos. Un an plus tard, elle signe son tout premier contrat avec une maison de disques. Et en 2003, son premier album, c'est Frank, un titre clin d'œil évidemment à Sinatra. Et il est numéro 3 en Angleterre et succès critique. Amy a à peine 19 ans. C'est à cet âge pivot qu'elle prend une direction diamétralement opposée à celle de David. Pendant que lui consacre toutes ses nuits à la révision de ses partiels à la fac, tout en dénonçant anonymement à la mairie de Paris ceux des camarades de classe qui se livrent au graffiti sur du mobilier urbain, Amy, elle, consacre ses nuits à faire la fête. Elle s'en s'engage aussi dans une relation tumultueuse avec Blake Fielder Civil. Alors les filles, oubliez les mecs vieux jeu qui vous offrent des monchéris à la Saint-Valentin. Blake, lui, c'est plutôt du genre à offrir des sachets de kétamine. Et ce qui devait arriver arriva. Amy devient accro aux drogues dures et à Blake, qu'elle épouse à Miami en mai 2007. Alcool, amour, kétamine, bientôt cocaïne. L'engrenage fatal est en place. C'est extrêmement dur, vous le savez, de se guérir d'une addiction. Que faire, David, face à un saladier de cocaïne ?
Faut ajouter un œuf.
Non, ça ne marche pas. Il faut accepter de faire ce que personnellement vous n'avez jamais accepté de faire, aller en cure de désintox, en réhab. Pas de traitement de doigts là, Stéphane ? Voilà. Seulement, voilà, Amy, Amy ne veut pas y aller. Et comme elle le chante dans un des plus beaux albums des années 2000, Back to Black, qui lui vaut 5 Grammy Awards, personne autour d'elle, évidemment, n'ose trop la forcer. Y compris son gentil papounet, qui donc, résumé du personnage, s'est taillé de la maison lorsqu'elle avait 9 ans et a miraculeusement réapparu quand ? Eh ben, quand sa fille est devenue une superstar millionnaire, tiens. Certainement une petite coïncidence. On est en 2007, Amy monte aussi haut dans les charts et l'estime du public qu'elle descend dans les limbes de l'autodestruction. Cette phrase est de moi, vous pouvez la noter. Ses abus divers et variés commencent à impacter ses performances. Quand Amy boit avant de monter sur scène, ça s'entend dans la salle, forcément, le public commence à la huer. Le 8 août 2007, elle fait une overdose après une énième tournée des bars. Dans son sang, le cocktail dit du grand chelem, héroïne, cocaïne, ecstasy, kétamine, whisky et vodka.
Moi, ça me dégoûte.
Vous avez raison, mélanger whisky et vodka, quelle hérésie. Enfin, les Anglais et le bon goût, vous savez. Bref. Sa tournée prévue en Amérique du Nord est annulée. Peu de temps après, la police fait une descente chez elle à Londres et arrête son mari pour entrave à la justice dans une sombre affaire de tabassage de barman. Un type bien, ce Blake, vraiment. Blake est en prison, Amy le vit mal. Elle le vit si mal qu'un soir, en plein concert à Birmingham, elle craque. Déjà peut-être le fait d'être à Birmingham, mais aussi peut-être le manque de Blake. Un journaliste présent dans la salle commente « Une artiste talentueuse, mais une artiste en larmes, trébuchant sur la scène et insultant honteusement son public. » Chez nous, ça s'appelle du théâtre subventionné, monsieur Télérama aura lâché 3T. Et vous avez peut-être les images en tête d'elle recevant ses Grammy Awards en duplex de Londres. Elle est toute seule dans une salle à Londres. Une idée de pourquoi elle n'avait pas fait le voyage aux États-Unis ? Ça vous dit rien, ces images ? Moi, je m'étais toujours demandé. Eh ben oui, effectivement, elle ne pouvait pas juridiquement, vu ses démêlés avec la justice et ses problèmes de drogue, ils n'ont jamais accepté de lui délivrer un visa. Alors, à partir de là, c'est terrible, mais on sent que Amy a déjà pris la carte de membre au club des 27. En 2009, petite lueur d'espoir, elle parvient à se séparer de Blake. Loin de cette relation toxique, ses fans espèrent qu'elle va pouvoir se ressaisir, retrouver l'inspiration et qui sait, réussir peut-être un jour à finir un concert. Elle essaye en tout cas de remonter la pente, accepte d'aller voir un psy. Il n'y a aucune honte à aller voir un psy, même Stéphane voit un psy en ce moment pour, disons, d'autres types de problèmes.
C'est que ça dicte. Oui. C'est vraiment une maladie ?
Oui, monsieur Bern, mais ça se soigne. Hélas, trois fois hélas, rien n'y fait. Amy a beau se débattre contre ses addictions, la tenir à distance quelques semaines, quelques mois, le manque est trop fort et finit toujours par surgir, d'autant que les tabloïds s'acharnent contre elle, écrivent parfois des choses ignobles.
En plus d'être vilaine, elle ne fait rien de ses journées paresseuses. Oh. Elle ne se distrait qu'avec les potins et l'alcool qu'elle consomme jusqu'à l'ivresse, au moins 3 soirs par semaine.
Honte à vous, Stéphane. Vous acharnez ainsi sur une jeune femme qui tente de s'en sortir. Elle accepte même de s'exiler à Sainte-Lucie, dans les Caraïbes, pour se sevrer. Et là, alors qu'elle tente de s'éloigner de son entourage nocif, qui elle voit débarquer ? Daddy pas cool, Daddy relou qui débarque pour lui remonter le moral, prendre de ses nouvelles, la sauver, peut-être c'est sa fille. Non, il débarque avec une équipe de télé pour la filmer dans son sevrage et faire du blé. Ce papa, à la fois aimé et détesté, à qui elle lance « Pourquoi écris-tu ma vie à ma place ? Tu as besoin d'argent pour te comporter ainsi ? Je pouvais t'en donner. » Tout est dit. Aussi bien entourée, Amy reçoit son abonnement définitif au Club des 27 en juin 2011. Elle sort une fois de plus de scène sous les huées à Belgrade. La tournée est encore annulée. Elle ne le sait pas, mais il s'agira du dernier concert de sa très courte carrière. La murge finale, elle intervient le 23 juillet 2011. C'est un de ses gardes du corps qui la retrouvera sans vie avec 4,16 g d'alcool dans le sang, battant ainsi au passage le record d'Olivier Pouls le soir de ses 45 ans, on s'en souvient. À bon entendeur, je vous laisse méditer le triste destin d'Amy Winehouse. Et à titre personnel, je me félicite de ne pas évoluer dans ce milieu propice aux excès qu'est l'industrie musicale. Et je me réjouis de travailler à Europe 1 avec des collègues sains et respectueux des lois, comme vous me le prouvez à chaque coupure pub.
Il n'est pas là, caché là. Il est en train de se faire un bon rail dans les toilettes.
J'ai choisi le bon milieu.
Ah oui, la bonne équipe, la fine équipe. Merci Mathieu. C'était 99% vrai,
surtout,
et donc 1% de
surtout sur son père.
Il y a un cœur qui bat
sous le fiel.
Oui, mais en fait, n'oubliez pas une chose, son père et son héritier, puisqu'il n'a pas eu d'enfant.
Mais oui, c'est encore plus retors.
C'est encore plus sordide,
Stéphane. Oui.
Mais c'est horrible cette histoire.
C'est une histoire.
Moi, j'aimais bien. Écoutez, vous m'avez ému là, vraiment, Mathieu.
Séchez vos larmes, Stéphane. Ouais. Il faut enchaîner.
Europe 1, historiquement vôtre.
Ouf, Mathieu. Nous, on n'entrera jamais dans le club des 27. Oui, ces stars décédées à 27 ans.
C'est presque un soulagement, finalement, compense largement le fait de ne pas avoir eu leur talent, Stéphane.
Bien sûr. Bah, on peut sereinement entrer dans la dernière demi-heure d'Historiquement Vôtre, que nous consacrons comme d'habitude à ces expressions, ces recettes, ces objets qui font partie de notre quotidien, sans qu'on sache toujours d'où ils viennent.
Et pour éclairer notre lanterne, trois lumières.
Oui. En même temps, est-ce que vous êtes levé ce matin en me disant « Tiens, j'aimerais bien savoir d'où ça vient la tartiflette ».
Mais si, mais je suis sûr que nombre de nos auditeurs se sont posé cette question.
Non,
d'où
mais peut-être qu'il s'est levé en disant « Je m'en ferai bien une ce soir ».
Ah oui, c'est vrai. Hein, ah ben ça, souvent, je me suis dit ça. La tartiflette avec Olivier Pouls, ouais. On aura la recette.
Et aussi l'origine.
Bien sûr.
Qui a inventé la tartiflette ?
Évidemment, je vous rappelle que vous êtes payé pour ça. Le mot de la fin, c'est Stéphane qui l'aura logiquement en fin d'émission.
Oui,
quelle expression décortiquez-vous pour nous aujourd'hui, Stéphane ?
Bah, vous savez, Mathieu Noël, par exemple, il fait tout un pataquès quand il n'y a pas assez de truffes dans ses pâtes. Ben, d'où vient cette expression,
comment,
faire tout un pataquès ?
Comment vous pouvez me connaître si bien ? Et tout de suite, nous allons partir aux origines d'un produit de consommation courante, puisqu'on est dans la demi-heure, on parle du quotidien des Français,
oui.
L'amiante.
Ouais.
Si vous aimez construire votre maison, si vous êtes en train de le faire, pensez à l'amiante.
Un jour plus tard, on vous l'enlèvera.
C'est voilà. Bien possible. L'amiante avec David Castello-Lopez.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Il n'aime pas les tags, mais il aime l'amiante. Ainsi va David Castello-Lopez, notre ludion franco-portugais. Chaque jour, l'origine d'un objet de la vie quotidienne ou parfois d'un matériau.
Moi, je pense souvent aux gens qui sont passés des summums de la gloire au tréfonds du caniveau, comme Michael Jackson, par exemple. Mmh. C'était le prince de la pop, mais bon, on a appris qu'il violait probablement des petits garçons. Et du coup, bah, il a cessé d'être cool. Eh bien, l'amiante, c'est un petit peu le Michael Jackson des matériaux. C'était l'un des matériaux les plus cool du monde, qui est devenu l'un des plus haïs. Mais oui, parce qu'on l'a un petit peu oublié quand même, mais l'amiante, pendant longtemps, c'était avant tout un matériau miracle, de ouf, qui permettait d'éviter les incendies. On en foutait partout pour ça. Et puis, un jour, on a appris la nouvelle, l'amiante, ça donne le cancer. Et pour tous ceux qui aimaient l'amiante d'un amour sincère, ça a été une désillusion totale. Partout dans les dîners, on entendait « Non mais je peux pas y croire, pas l'amiante, elle a bercé mon enfance. Tu te souviens de cette façon incroyable qu'elle avait de jamais prendre feu ?» Et on a tous enterré nos illusions en pleurant un petit peu. Et c'est donc de cette histoire que j'aimerais parler aujourd'hui. L'amiante, qu'est-ce que c'est ? L'amiante, ça désigne un groupe de plusieurs minéraux qu'on trouve dans la nature et qui ont tous les mêmes caractéristiques. Ils sont faits de fibres qui sont à la fois ultra malléables, ultra solides et ultra résistantes à la chaleur. Et j'ajoute aussi très très belle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un morceau d'amiante.
Non, nous ne sommes pas pervers comme vous, David. On n'a pas tapé amiante sur Pornhub, je suis désolé, ça n'est pas encore arrivé.
L'amiante, on dirait la chevelure d'un vieil homme majestueux. Vous voyez, c'est hyper beau à voir. Et donc, depuis l'Antiquité, on en fout partout de l'amiante pour protéger
depuis
les matériaux du feu.
Depuis
l'Antiquité, il y a des carrières d'amiante. Les Grecs utilisaient l'amiante. C'était un truc quand même très très bien. Et on n'en a jamais foutu autant partout que dans la première moitié du XXe siècle. Dans les immeubles, dans les bateaux de l'armée, sur les avions, dans des combinaisons de pompiers, dans les sèches-cheveux, dans les gants de cuisine, partout. J'avais une pub chez moi pour un repose-fer qui disait « Avec de l'amiante !» Et il y avait un point d'exclamation et tout. Et comme je dis, oui, il y avait même des pubs à la télévision qui vantaient les mérites de l'amiante, comme celle-ci par exemple, une pub anglaise qui date de 1942 et qui parle des merveilleuses utilisations de l'amiante. On l'écoute et je traduis après.
Asbestos comes into the home in the shape of fireproof curtains and covers, and in a variety of patterns.
Voilà, l'amiante se décline aussi en produits pour la maison, sous la forme de rideaux et de nappes en amiante qui résistent au feu et qui sont imprimés avec des motifs variés.
La nappe en amiante, voilà un beau cadeau pour ma belle-mère.
Voilà,
pas pensé à ça.
Mais assez vite en fait, et surtout plus tôt qu'on le croit, hein, dès les années 20, on a commencé à remarquer que l'amiante avait un défaut redoutable, elle était très mauvaise pour la santé, elle tuait les gens. Voilà. Et pourquoi ? Eh bien entre autres parce que ces petites fibres super dures là, les cheveux du vieil homme majestueux, eh bien en fait c'est comme des millions de minuscules couteaux super aiguisés, et quand vous respirez ces fibres, eh bien ça vous fait des milliers de petites plaies microscopiques dans les poumons, et ces plaies, elles font des cicatrices qui finissent par rendre la respiration super difficile. Sans compter d'autres types de complications, au premier rang desquels il y a le mésothéliome, qui est un type de cancer qui touche l'enveloppe des poumons et qui n'existe en gros pas à part si vous respirez de l'amiante. Voilà, il n'y a pas de mésothéliome chez les gens qui n'ont pas respiré de l'amiante ou des trucs voisins. Et c'est pas fini, il y a deux trucs encore plus cruels avec l'amiante dont on s'est rendu compte petit à petit.
1. Il n'y a pas besoin d'y être exposé très longtemps pour que ça nique les poumons. Quelques mois, ça suffit. Ah ouais. Et 2. Souvent, les symptômes problématiques, ils apparaissent 25 ans après l'exposition. C'est horrible. Il y a des cas comme ça de gens qui arrivent chez le médecin et qui disent « Docteur, c'est chaud, j'arrive plus trop à respirer là ». Et en fait, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Et puis, ils se rendent compte que 30 ans avant, ils ont travaillé pendant 6 mois dans un entrepôt qui n'était pas loin d'un chantier où on utilisait de l'amiante.
Quelle horreur.
Voilà. Malgré tout ça, ça a pris quand même beaucoup de temps pour que ouais, l'amiante...
Olivier, Olivier, là, on fait moins le malin sur la respiration. Hein. Deux jours, on frimait sur la respiration. Là.
Et là, ça a pris quand même beaucoup de temps pour que l'amiante soit interdite. En France, par exemple, elle a été interdite qu'en 1997. Il y a même encore des endroits dans le monde où elle n'est pas complètement interdite. Mais même comme ça, il y a quand même fort à parier qu'un jour, il n'y en aura plus nulle part, à part à l'état naturel. Et on devra se contenter d'en observer la beauté à l'état naturel, donc, et de se souvenir qu'un jour, l'amiante, on l'a aimé.
Comme quoi la nature ne nous veut pas toujours que du bien.
Mais oui, c'est vrai,
bien
ça.
Sûr. Merci. En fait, nous sommes tous des miraculés.
C'est ça. Oui, mais pour combien de temps?
Déjà, on a passé la date des 27.
Des 27, et c'est déjà pas mal.
En tout cas, merci, David Castillo-Lopez. On retrouve évidemment en podcast sur toutes les applis audio et aussi sur le site europe1.fr.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Il était un des plus grands fans d'Amy Winehouse.
Eh oui, on va faire des crêpes à la façon de Suzette.
Qu'il confondait avec Danny Briand. Mais surtout, il boit comme Amy Winehouse, qui explique ce son. Olivier Paul, chaque jour, l'histoire d'une recette qu'on aime. Aujourd'hui, une recette bien grasse, une recette bien de saison. Qui s'harmonise parfaitement avec le ski qu'on ne fera pas.
Ben voilà, une recette qui fleure bon la montagne, la tradition savoyarde. On s'y voit, on a été passer une bonne journée tous ensemble au grand air et on rentre le soir pour se faire une bonne tartiflette. C'est vrai que ça incarne absolument les vacances au ski. Et puis, je ne sais pas, quand on prononce le nom, on a l'impression d'un vrai plat authentique de la Haute-Savoie qui existe depuis la nuit des temps.
C'est pas le cas.
Et ben, c'est pas le cas du tout.
Non, c'est pas le cas.
La tartiflette, elle a 40 ans, tout au plus. C'est un plat qui a été purement et simplement inventé et entre guillemets marketé.
Ah oui ?
Eh oui. La tartiflette, alors il y a deux petites histoires mais qui sont très proches.
Je suis tombé dans le panneau.
Eh oui, alors il y a la première histoire attribue l'invention donc de la tartiflette dans les années 80 à un restaurateur de la Clusaz. Oui. Qui avait des stocks de reblochon dont il ne savait pas trop quoi faire. Et c'était un fromage qui n'avait pas une énorme cote et il n'arrivait pas à les vendre. Et il s'est dit, mais bon sang, il faut que je trouve un truc pour rendre ce reblochon sexy. Et il a inventé la recette de la tartiflette pour écouler ses stocks de reblochon. C'était un carton immédiat. Et d'ailleurs, le syndicat des producteurs de reblochon s'est immédiatement emparé de ce truc. En faisant mousser l'affaire et en racontant l'histoire de ce plat, de cette tartiflette, en se gardant évidemment de dire que c'était un plat tout à fait contemporain, même si en fait le plat s'appuie sur un vrai plat authentique qui s'appelle la Pella. Et la Pella qui est un plat qui était oublié en fait.
La Pella des Aravis.
Voilà, exactement. Qui était un mélange de pommes de terre, d'oignons et de reblochon. Lui, le restaurateur, pour rendre ce plat un peu plus sexy, qu'est-ce qu'il a rajouté ?
Des petits lardons.
Des petits lardons et du vin blanc.
Bien sûr.
Ça, c'est la recette de la tartiflette que je vous donne dans un instant. Mais est-ce que vous savez d'où vient le reblochon ? Et pourquoi d'ailleurs il s'appelle le reblochon ?
Il faut le
il est blechonné deux fois.
Il est blechonné deux fois.
Et qu'est-ce que ça veut dire blechonné?
On le tourne, on le retourne.
Non, non, non. Non, en fait, la bloche et la rebloche, c'est la traite des vaches. Et en fait, c'était une petite manière d'arnaquer le fisc. Parce qu'en fait, à l'époque, au XIIIe siècle, les paysans devaient donner une partie de leur lait prélevé par les impôts. Et donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient une traite partielle. En disant, regardez, on n'en a pas tellement, on a juste 40 litres ou 50 litres.
Ah, et
en fait, quand le gars était parti, il retrayait. Et donc, c'était ce qu'on appelait
rebloche. Pourquoi quand tu trais, quand vous faites le geste, on a l'impression que vous conduisez une Formule 1
C'est le pire de la vache.
Voilà. Il faisait une deuxième traite.
Et la vache, elle faisait quoi pendant que le percepteur y passait?
Bah, elle l'attendait.
Elle disait rien.
Voilà, elle je peux vous dire que la vache, quand elle a du lait, il faut qu'elle le donne.
En tout cas, elle le garde puisqu'elle avait déjà été soulagée, entre guillemets, une première fois. Et donc, avec cette deuxième traite, on faisait le fromage, le reblochon. Alors, pour ce qui est de la recette, je fais une petite parenthèse, pas de crème fraîche dans le reblochon. Hein. C'est interdit, ce n'est pas du tout, il y en a qui s'amusent.
Il faut un reblochon entier.
Alors il faut un reblochon entier, et puis surtout il faut acheter un bon reblochon fermier. Et vous savez comment on différencie un reblochon fermier d'un reblochon plus
Il est plus cher.
Fermier, le prix, ouais, c'est écrit dessus.
Fermier, ça veut dire que c'est uniquement le lait d'une seule ferme, et sinon, ce sont des reblochons avec des laits ramassés un peu partout. Eh bien, il y a une petite pastille sur le reblochon. Quand la pastille est verte, vous pouvez y aller, c'est le reblochon fermier. Quand elle est rouge, c'est un reblochon, ce qu'on appelle un reblochon laitier. C'est pas pour ça que c'est mauvais, mais le fermier est meilleur. Voilà, donc 1 kg de pommes de terre, un reblochon entier, bien sûr, 250 g de poitrine de porc, donc des petits lardons taillés, 10 centilitres de vin blanc, 2 oignons, une gousse d'ail, du poivre. On va éplucher les pommes de terre en rondelles. Dans une grande poêle, on fait revenir les lardons qui vont dégraisser, qui vont relâcher un petit peu de gras. Donc on va faire sauter aussi les oignons, les pommes de terre. On va cuire tout ça pendant une petite quinzaine de minutes. On va déglacer avec le vin blanc. Dans un plat qu'on a frotté à l'ail, une couche de pommes de terre avec les oignons et les lardons, et des petits morceaux de reblochon, une couche de pommes de terre, et puis le demi-reblochon qu'on a coupé dans le sauce de la hauteur, par-dessus pour terminer.
67 000 calories.
Voilà, et au four, parti. 200 degrés, 15 minutes, ça va gratiner, ça va compoter, ça va confire, et c'est absolument irrésistible.
Irrésistible. La prochaine fois que je viens chez vous dîner...
J'ai faim, rien de m'en parler.
La prochaine fois que je viens chez vous, je veux... la tartiflette, sinon je fais tout un pataquès. Et d'où ça vient cette expression?
Ben, je vais vous
déjà
dire.
Qu'on a appris reblochon, qu'il fallait reblochonner quelque chose.
Reblocher.
Hein, alors pourquoi
la rebloche.
Et les bloblos, ça vient de là.
Rebloche.
Les bloblos. On a perdu Stéphane Bern.
On va pas reblochonner, si vous voulez bien. On va expliquer l'expression faire tout un pataquès.
Un peu de sérieux dans cette émission.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
L'heure est venue, Stéphane, de nous livrer votre dernier mot. Chaque jour, l'histoire d'une expression.
Vous savez, Mathieu, vous pouvez le dire d'ailleurs à la France entière. Bon, oui. Je suis quelqu'un de simple, sans chichi, hein, et pas plus naturel.
Oui, je confirme, j'en parlais pas plus tard qu'hier à un de vos laquais. Vous êtes quelqu'un d'une simplicité absolue, c'est vrai.
Non, mais en tout cas, on le sait, je suis pas du genre à faire tout un pataquès.
Oui, mais dis donc Stéphane, quelle est l'origine de cette expression? Je vous en prie, dites-nous vite, parce qu'on ne peut plus attendre, on en parle depuis tout à l'heure. Oh, j'ai l'impression que j'en fais tout un pataquès.
Eh bien, cette expression trouve son origine d'une blague. C'est une blague du XVIIIe siècle. Vous ne m'en voudrez pas donc si... Elle a un peu vieilli quand même.
Allez-y, lancez-vous.
Un jeune homme était au théâtre, assis à côté de deux dames, visiblement très apprêtées, avec des toilettes exagérément soignées. Elles parlaient très fort et elles se donnaient vraiment en spectacle. Tout à coup, il trouve un éventail. Il leur demande « Madame, il est à vous ?» Et la première répond « Non, il n'est point à moi. » Le jeune homme s'adresse alors à la deuxième « Est-il à vous ?» Elle répond « Non, il n'est pas à moi. » Le jeune homme conclut en disant oui. « S'il n'est point à vous, ni à vous, mais je ne sais pas ta caisse.
Oh
voilà comment.
Oh voilà, je me gausse.
Voilà comment une blague sur des personnes adeptes des liaisons dangereuses a donné naissance à une expression en faire tout un pataquès. L'histoire est-elle authentique? Bon, rien.
Ça, c'est mon Stéphane.
Probablement pas.
Ça, c'est mon Stéphane.
Rien ne le prouve. Rien ne prouve le contraire.
Ah, rien ne prouve le contraire, bien
sûr. En tout cas, on la doit à un grammairien du milieu du XVIIIe siècle, François Urbain Domergue. Donc, moi, si vous voulez, je lui fais confiance à ce monsieur Domergue. Dans le même registre, quittons-nous sur un bon mot de l'humoriste Marc Esquerol. Gare aux fautes de liaison. Si on achète un jeune dalmatien dans un chenil, s'agit-il d'un chiot acheté ou d'un chiot acheté?
Ceci, elle est mignonne.
Oui.
Il est l'heure, les amis, de quitter le club des 27. Historiquement vôtre, consacré aujourd'hui à ces personnages de l'histoire morts à 27 ans, se termine, comme eux, trop vite. Lequel de nos personnages vous a le plus ému, Stéphane? C'était très émouvant. Entre Charles VIII, Joseph Merrick, dit Elephant Man, ou Amy Winehouse, on ne sait plus...
Écoutez, je trouve que notre invité, Dennis Von P, nous a livré un portrait d'Elephant Man qui était particulièrement saisissant et plein d'humanité, en quelque sorte. Donc oui, je voterai pour Elephant Man. Mais c'est vrai qu'avec Amy Winehouse, j'étais assez fan, mais son père m'a vraiment détourné de sa voix.
Oui, si son père qui doit être au Maldives actuellement, en train de pleurer le destin de cette fille.
À
Saint-Lucie, oui, il est retourné là-bas. Est-ce pour finir l'émission en beauté, vous souhaitez Stéphane qu'avec Olivier David, on vous fasse notre reprise de Back to Black à la flûte traversière?
Ah oui, volontiers, non.
Non, beaucoup de messages pour dire c'est dommage,
oui.
Parce que c'était vraiment une reprise de qualité. Je trouve qu'on était assez juste. Vous pouvez peut-être claquer des doigts en même temps, parce que vous claquez vraiment bien des doigts. C'est fou, il arrive à claquer des doigts vraiment à côté du temps. Je ne sais pas
comment
il fait.
Et pas toujours de la même façon à côté, en fait.
Stéphane Bern est un être prodigieux. Le programme de l'émission demain, Stéphane, vous le connaissez.
Demain, ils sont en fer et contre tous. On réunit trois personnages de fer qui ne vont pas vous laisser de marbre. Otto von Bismarck, le chancelier de fer. Margaret Thatcher, la dame de fer.
Et Iron Man.
Faut le faire.
On le fera. Alors à demain, Stéphane. À demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.